19h, vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
Les personnes qui utilisent de façon disproportionnée la force que le peuple met à disposition de ceux qui ont la violence légitime doivent être sanctionnées et n'ont rien à faire dans la police nationale ou dans la gendarmerie nationale.
Gérald Darmanin, en ce moment, face aux députés entendus sur les violences policières, il n'y a pas de divorce entre police et population, assure le ministre de l'Intérieur.
Cet après-midi, les chefs de groupe de la majorité parlementaire ont annoncé la réécriture de l'article 24 de la loi sécurité globale.
Après les nouveaux incidents en marge des manifestations ce week-end, les commerçants bordelais demandent à ce que le parcours de ces défilés évite désormais les centres-villes et leurs boutiques déjà tellement pénalisées.
La haute autorité de santé dévoile ses préconisations pour la vaccination en France, priorité aux personnes âgées dans les EHPAD.
8 morts en 2015, l'incendiaire présumé de la rue Mira à Paris devant les assises face aux anciens locataires, lui qui s'était fait passer pour une victime de ce drame.
Au sommaire également ce soir, l'assassinat d'un éminent physicien nucléaire iranien. L'Iran accuse le Mossad en toile de fond. Le changement de président aux États-Unis, nous dira Didier François.
Et puis quand Noël Le Graët, le président de la Fédération française de foot, dit que c'est presque cuit, c'est que ça sent pas bon. Il ne pourrait ne pas y avoir de Coupe de France cette année.
Un coup d'œil au temps avec Anissa. Pour ce premier jour de décembre, l'ambiance est hivernale.
Et je vous l'apprends peut-être, Julien, mais demain, c'est aussi le premier jour de l'hiver météorologique jusqu'au 28 février. Eh bien, vous allez le constater, le temps est en raccord avec le calendrier. D'ailleurs, ce soir, nous avons 4 départements du Nord-Est placés en vigilance orange, neige, verglas. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
L'article 24 de la loi sécurité globale qui avait provoqué un tollé sera donc réécrit. Emmanuel Macron a pris les choses en main en convoquant une réunion à l'Élysée ce lundi.
Réunion à laquelle participaient les présidents des 3 groupes parlementaires de la majorité. Ces derniers ont tenu une conférence de presse dans la foulée.
Oui, et c'est là qu'ils ont expliqué qu'ils renonçaient à cet article polémique, en tout cas dans sa forme actuelle.
Et l'on notera que ce rétro-pédalage intervient quelques heures seulement avant l'audition de Gérald Darmanin. Devant la commission des lois de l'Assemblée, le ministre de l'Intérieur, qui a pleinement soutenu cet article, s'explique depuis un petit peu moins d'une heure maintenant sur les violences policières de ces derniers jours. Claudia Bertrand, vous êtes en direct.
Oui, Gérald Darmanin est d'abord revenu sur l'agression de Michel Zecler. Des actes inqualifiables ont été commis, dit-il devant les députés, en appelant toutefois à ne pas faire de généralité sur les forces de l'ordre.
Les personnes qui utilisent de façon disproportionnée la force que le peuple met à disposition de ceux qui ont la violence légitime doivent être sanctionnées et n'ont rien à faire dans la police nationale ou dans la gendarmerie nationale. Mais des individualités ne sont pas un tout. Et je ne supporte pas et je ne supporterai pas qu'on atteinte à l'institution, celle de la police nationale et de la gendarmerie, qui font un travail admirable.
Et le ministre de l'Intérieur qui l'affirme, il n'y a pas de divorce entre la police et la population. Gérald Darmanin reconnaît des problèmes structurels dans la police, notamment en ce qui concerne la formation. La raccourcir n'était pas une bonne mesure, admet le ministre, qui a d'ailleurs proposé aujourd'hui au chef de l'État que cette formation initiale soit plus importante. Sur une réforme de l'IGPN, la police des polices, Gérald Darmanin se dit prêt à tout étudier. L'audition se poursuit. Gérald Darmanin devrait être interrogé également sur l'avenir du préfet de police de Paris, Didier Lallement, ou encore l'article 24 de la proposition de loi sécurité globale qui va donc être réécrit, comme l'ont annoncé les présidents de groupe de la majorité tout à l'heure.
Merci Claudia Bertrand, en direct donc de l'Assemblée nationale pour Europe 1.
Oui, notez que 2 des policiers impliqués dans le passage à tabac du producteur de musique Michel Zecler sont en détention provisoire. Les 2 autres ont été placés sous contrôle judiciaire. Tous les 4 ont été mis en examen pour violence volontaire.
Notez aussi que le parquet de Paris a ouvert une enquête sur les violences à l'encontre d'un photographe syrien qui a été blessé samedi dans la capitale. Des scènes de violence, il y en a eu donc encore ce week-end, en marge de manifestations un peu partout en France et en particulier à Bordeaux.
Et elles ont suscité la colère des commerçants après des dégradations, des vitrines cassées, des magasins pillés, en ce jour de réouverture tant attendu après ce deuxième confinement.
Trop, c'est trop, il faut interdire les manifestations dans les zones commerçantes, demande l'association des commerçants et artisans des métropoles de France que préside Christian Boulme.
Ce qu'on veut, c'est que, a priori, les manifestations soient interdites dans ces zones-là et que les gens qui veulent manifester avec des parcours qui passent dans ces zones soient obligés, non pas de le déclarer, mais de négocier le parcours avec la préfecture et les représentants des commerces et les représentants des municipalités. C'est une question juridique. C'est-à-dire que les organisateurs qui organisent une manifestation autorisée, puisque toutes les manifestations sont autorisées, mais toutes les zones ne sont pas autorisées et qui les organisent dans ces zones-là, sont pénalement responsable. C'est ça qu'on veut. Ben, si on recommence un week-end de plus, c'est fini. Le commerce des métropoles est mort. Les organisateurs doivent avoir un service de maintien de l'ordre. C'est une obligation. Ils sont pénalement responsables sur eux-mêmes et il faut que la loi s'adapte pour que cette contrainte soit plus forte. Ça suffit, c'est ras-le-bol, il va y avoir de la réplique.
Le président des commerçants bordelais au micro européen de Stéphane Place. Les premiers vaccins contre le Covid pourraient être disponibles en France d'ici la fin du mois de décembre. Mais bien sûr, toute la population française ne se fera pas vacciner tout de suite et pas tout le monde en même temps. Bien sûr.
La Haute Autorité de Santé a publié ses recommandations ce matin et elle préconise de cibler en priorité les personnes âgées dans les EHPAD.
Alors Eve Roger, comment ça peut se passer, une vaccination massive au sein de ces établissements? Combien de personnes concernées et comment organiser tout ça?
Eh bien, ça concerne 750 000 personnes âgées et environ 90 000 salariés vulnérables des EHPAD. Vulnérables soit parce qu'ils ont plus de 65 ans, soit parce qu'ils peuvent faire une forme grave de la maladie. Alors, les résidents des EHPAD sont la priorité des priorités car ils sont particulièrement âgés. Ils ont déjà payé un lourd tribut à la maladie, près d'un tiers des 52 000 morts du Covid en France. Alors, comment organiser cette vaccination? Déjà le lieu, difficile de demander à des résidents fragiles de sortir de leur maison de retraite pour aller se faire vacciner. Et pour Jacques Battistoni, président du syndicat de médecins généralistes MG France, le plus sûr, c'est d'aller à leur rencontre.
On ne compte plus le nombre d'EHPAD où il y a eu une majorité des résidents qui ont été touchés par le Covid. Donc c'est très important de les vacciner. Ça va être éventuellement les médecins généralistes, mais aussi les personnels infirmiers qui travaillent déjà dans ces EHPAD.
Autre question, quel vaccin pour ces résidents en EHPAD? On sait que ce sera le premier à disposition au mois de janvier. Sans doute l'américano-allemand Pfizer-BioNTech. On sait aussi qu'il doit être stocké entre moins 70 et moins 80 degrés, mais qu'il peut demeurer quelques jours dans un frigo classique. Reste donc maintenant à organiser la logistique.
Eve Roger, chef du service Société d'Europe 1. Et si la situation s'améliore lentement chez nous, ce soir l'OMS met en garde sur la situation au Brésil, qui est très très inquiétante. Également au Mexique, le pays est en mauvaise posture, dit le patron de l'Organisation mondiale de la santé. Cette fois, c'est le vrai coup d'envoi du procès de Nicolas Sarkozy dans l'affaire des écoutes.
Image inédite sous la Ve République d'un ancien chef de l'État à la barre pour corruption et trafic d'influence.
Nicolas Sarkozy qui, dès le départ, a pris la parole pour dénoncer les infamies pour lesquelles on le poursuit, a-t-il dit, depuis 6 ans. Son avocate, elle, demande carrément l'annulation de la totalité de la procédure.
Il y a 5 ans, un immeuble s'embrasait dans le 18e arrondissement de Paris, faisant 8 morts rue Mira. Incendie allumé par l'un des locataires.
Un homme qui, pendant un an, s'est fait passer pour une victime parmi les autres. Le procès de ce drame s'est ouvert aujourd'hui. Et depuis ce matin, Justin Morin, les locataires sont donc confrontés à leur ancien voisin, celui par qui l'horreur est arrivée.
Oui, il a tout de l'adolescent mal dans sa peau. Les cheveux longs, mal coiffés, la posture chétive, souvent recroquevillée, et le t-shirt sur lequel on voit un petit poney rose de dessin animé. S'il voulait montrer qu'il est immature, il n'aurait pas fait autrement. Face à lui, dans la salle, il y a une partie de la famille Tendian, décimée par l'incendie. 4 y ont péri, dont 2 enfants. Alassane Tendian, lui, a survécu. L'accusé, c'était son voisin, et il ne croit absolument pas à sa posture.
Ça me choque et ça m'énerve. C'est pour minimiser les faits. Donc, il casse toujours la vérité. Nous, on a perdu 4 membres de la famille. Ça me fait très mal au corps.
D'emblée, d'une voix timide, l'accusé a pourtant reconnu les faits. Mais il se retranche derrière un double imaginaire et violent nommé Superbia, qui l'aurait poussé à commettre les faits. Son avocat, Maître Laurent Thieffry.
Coupable, ça c'était une évidence, il vient de le rappeler. Toutefois, il souhaite insister sur le fait qu'il n'avait aucune conscience du danger qu'il faisait courir aux autres et expliquer également justement les circonstances qui l'ont amené à commettre ce geste.
Alors, est-ce une vraie pathologie ou une stratégie de défense? Pendant la procédure, les experts psychiatriques, eux, ont plutôt décelé une posture opportuniste et déculpabilisante. Ce sera tout l'enjeu de ce procès qui durera 1 semaine et demie.
Justin Morin, la Cour d'assises de Paris.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
La suite du journal 19h10. Il était l'un des plus grands scientifiques d'Iran, une éminence grise dans le domaine du nucléaire.
Et il a été assassiné vendredi dernier de manière spectaculaire. On en parle ce soir avec notre spécialiste des questions internationales. C'est l'œil de Didier François. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Le régime de Téhéran accuse aujourd'hui Israël et brandit la menace de représailles.
Oui, parce que le coup est extrêmement rude pour la République islamique d'Iran qui vient de perdre le cerveau de son programme nucléaire, mais surtout l'homme qui en avait conçu sa part la plus secrète. Son volet militaire, le projet clandestin Ahmad, dont l'objectif était de doter le régime des ayatollahs d'un petit arsenal nucléaire. Mohsen Fakhrizadeh n'était d'ailleurs pas un simple physicien. Il avait également rang de général dans les gardiens de la révolution, qui est un peu la milice idéologique du pouvoir iranien. Et c'est sous sa direction directe qu'avait été pensée et construite dans la plus grande discrétion l'usine d'enrichissement Natanz. Vous savez, ce vaste complexes souterrains ou des milliers de centrifugeuses sont capables de transformer de l'uranium en une matière fissile de qualité suffisante pour servir à la fabrication d'une tête nucléaire. Alors, c'est un programme tout à fait clandestin qui avait été mis en place en 1999 et il a été découvert en 2002. La pression de la communauté internationale a donc fait, avec des sanctions et des opérations de sabotage, des attaques cyber, vous vous rappelez, avec des virus informatiques comme Stuxnet. Déjà à l'époque, des assassinats ciblés de plusieurs ingénieurs de haut niveau, qui étaient tous des collaborateurs de Mohsen Farkhrizadeh. Tout cela avait forcé l'Iran, finalement, signer en 2015 un accord de renoncement à la part militaire de son programme nucléaire sous le contrôle de l'Agence internationale de l'énergie atomique.
Mais qu'est-ce qui a donc, Didier, relancé cette guerre secrète ?
Alors c'est évidemment lié au départ de Donald Trump, dont vous savez que l'une des premières mesures lorsqu'il a été élu fut de dénoncer l'accord sur le nucléaire iranien et de réimposer des sanctions économiques. L'Iran, en représailles, a repris l'enrichissement d'uranium et dispose désormais de 2500 kilos de matière fissile, ce qui est 12 fois la limite fixée dans l'accord. Donc mécaniquement, ça diminue le délai qu'il faudrait à Téhéran pour fabriquer une bombe, ce qui inquiète terriblement Israël, on le comprend. Et à l'évidence, il a été décidé de liquider celui qui aurait été chargé de produire ces armes avant l'entrée de Joe Biden à la Maison-Blanche. C'était une fenêtre d'opportunité, d'autant que le futur président américain a toujours fait savoir que lui, il voulait revitaliser l'accord sur le nucléaire iranien.
Merci mon cher Didier. L'œil de Didier François, c'est tous les soirs dans le journal de 19h.
Des nouvelles du Vendée Globe et surtout du skipper Kevin Escoffier. On en parlait à 18h. Il a déclenché sa balise de détresse en raison d'une importante voie d'eau. Jean Le Cam, qui est son concurrent le plus proche, se déroute actuellement pour lui porter assistance. Il s'agit du premier sauvetage depuis le départ de la course.
Une femme arbitre en Ligue des Champions, c'est une grande première, Isabelle.
Stéphanie Frappard, qui est déjà la première femme à être devenue arbitre de Ligue 1, notamment, va devenir la première à diriger une rencontre de la Coupe aux grandes oreilles. Ce sera dans deux jours lors du match entre la Juventus et le Dynamo Kiev.
Et puis toujours en sport, grosse inquiétude autour de la Coupe de France de foot 2020-2021.
Oui, après les annonces d'Emmanuel Macron sur la reprise du sport amateur d'ici le 20 janvier, les fans de foot sont très inquiets. La doyenne des compétitions pourrait en effet être annulée pour la première fois de son histoire, Julien Froment.
Effectivement, les mots du président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, ne sont pas vraiment rassurants. C'est quasiment cuit, a-t-il déclaré chez nos confrères de France 3 Bretagne. Vous l'avez rappelé, jusqu'au 20 janvier, pas d'entraînement, pas de match pour les clubs amateurs. Donc impossible dans ces conditions de disputer la Coupe de France alors qu'il y a encore 3 tours à jouer avant la rentrée des clubs professionnels. Plus le temps passe, plus le calendrier se resserre. Tout doit rentrer d'ici le 11 juin, date du début de l'Euro. Un casse-tête pour la Fédération, un crève-cœur pour les clubs amateurs. Michael Bertancetti est le président de l'INA Montlhéry. Il a défié l'an passé le Paris Saint-Germain en 32e de finale. Un match qui a tout changé pour le club de l'Essonne.
Ça représente 50% du budget annuel du club, donc c'est énorme. Au niveau de la notoriété, la mairie nous a suivis. On avait besoin d'un terrain parce qu'on n'avait plus d'installation aux normes. La mairie, cet été, nous a fait un terrain et ce qui nous sauve aussi la mise. Toutes ces choses-là sont arrivées par rapport à la Coupe de France.
La Coupe de France, doyenne des compétitions qui a tout traversé, même la Seconde Guerre mondiale, est en grand danger. La fédération envisage toutes les hypothèses, ne faire jouer que les clubs professionnels ou l'annuler purement et simplement. Elle espère surtout un assouplissement des mesures par le président Macron le 15 décembre prochain.
Julien Froment du service des sports d'Europe 1.
Merci Isabelle. À demain.
À demain.
La météo avec Anissa qui nous a retrouvés. Vigilance dans le nord-est, soyez prudents demain.
Ça concerne 4 départements et dès ce soir, Julien, pour la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle et les Ardennes. Vigilance orange, neige, verglas. Attention, ce soir et déjà dès maintenant et puis cette nuit, les pluies sont verglaçantes. La neige tombe en pleine. Alors la neige, elle ne va pas vraiment tenir. Elle va tenir à partir de 500 mètres d'altitude. Demain, nous avons une perturbation qui traverse le pays. Des Pyrénées à l'Alsace, le temps est gris et pluvieux. À l'arrière de la perturbation sur le nord-ouest, sur la région parisienne et la façade atlantique, demain après-midi dans toutes ces régions, le soleil revient. Dans le sud, il fait beau, mais nous avons toujours le Mistral et la Tramontagne qui soufflent. Les températures, elles sont toujours négatives en Auvergne et dans le nord-est, avec 0 à moins 4 degrés demain matin, 2 à 9 partout ailleurs. Et puis dans l'après-midi, nous aurons 4 à 16 degrés, 4 à Strasbourg, 10 à Paris et 16 pour Ajaccio. Attention, cet événement n'est absolument pas exceptionnel. Hein. De la neige début décembre, oui. C'est presque météorologiquement normal.
Bien, et on est content de l'annoncer, ça fait du bien, vrai. Un petit peu. Un petit manteau blanc sur les cimes. Exactement. Des montagnes. Merci Anissa,
bonne
à demain.
Soirée.